La formation et l'accompagnement des stagiaires étudiants, ça a toujours été naturel pour moi. Pourquoi? Parce que c'est eux les futurs pros, tout simplement, et qu'ils ont absolument besoin d'être immergés, même pendant leurs études, au sein d'une ambiance de travail, d'une entreprise, pour voir déjà ce que c'est. Est-ce que c'est vraiment ce qu'ils veulent faire ou pas? Est-ce que ça infirme ou confirme leur choix? Donc, j'ai toujours passé beaucoup de temps à former, que ce soit mes équipes ou des étudiants.
Bienvenue dans le podcast Formation Innovation, le podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'experts de la formation. Chaque semaine, je m'efforce d'inviter une personne remarquable avec qui j'échange sur ses méthodes, ses outils et sa vision de la formation. L'objectif de ces conversations est de montrer que l'on peut former autrement et, avec un peu de chance, vous inspirer à appliquer leurs conseils dans vos formations. Si vous appréciez cet épisode, n'oubliez pas de donner 5 étoiles sur Apple Podcasts. Je lis tous les commentaires et c'est ce qui permet au podcast de continuer à exister. Vous retrouverez les outils, livres, personnes et autres sujets évoqués pendant le podcast sur formation-innovation.com. Bonjour Sylvaine, merci d'être présente avec moi aujourd'hui. Comment ça va ?
Ça va très bien Elliot, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait super plaisir d'être là.
Bah, merci à toi. Est-ce qu'on peut commencer cet épisode par te présenter ? Présenter ce que tu fais s'il te plaît.
Bien sûr. Alors, je m'appelle Sylvaine Poncet, j'ai une carrière derrière moi de commerciale à l'international, de directrice commerciale, et depuis un an et demi, j'ai lancé ma propre activité de freelance. Je fais du conseil à l'international, c'est-à-dire que j'accompagne les entreprises, les PME et les PMI à exporter leurs produits ou leurs services.
Voilà. Ok, super. Et donc, tu es formatrice notamment, c'est une des raisons pour laquelle tu es là dans le podcast. Moi, ce que j'aime bien, c'est que tu conjugues plusieurs activités. Tu n'es pas juste une chercheuse qui fait que ça, enfin, entre guillemets, qui est que professeur ou qui fait de la recherche, donc tu n'es pas que dans le monde académique. Peut-être qu'on peut en parler, mais avant qu'on rentre dans ce que tu fais concrètement, moi, je serais curieux de comprendre pourquoi tu es formatrice et pourquoi tu fais les deux et pas juste l'une ou l'autre activité.
Oui, tout à fait. En effet, la formation, ça fait partie de mon activité au sein de ma société. Aujourd'hui, j'ai commencé en tant qu'auto-entrepreneur, on va dire, mais maintenant, c'est au sein de ma société. Ça fait 3 ans, là, c'est ma 3e année de formation, d'enseignement, que là, j'ai totalement intégré dans ma société qui s'appelle Tremplin Co. Alors, pourquoi la formation ? Pourquoi ? Parce que j'ai toujours accompagné, toujours, des collaborateurs. Quand je recrutais, je les ai formés, je les ai accompagnés. J'ai toujours eu des alternants également, que ce soit des alternants BTS, des alternants bachelor, des alternants des fins de master 2, donc des stages de 6 mois. C'est-à-dire la formation et l'accompagnement des stagiaires étudiants, ça a toujours été naturel pour moi. Pourquoi ? Parce que c'est eux les futurs pros, tout simplement, et qu'ils ont absolument besoin d'être immergés même pendant leurs études, au sein d'une ambiance de travail, d'une entreprise, pour voir déjà ce que c'est. Est-ce que c'est vraiment ce qu'ils veulent faire ou pas? Est-ce que ça infirme ou confirme leur choix? Donc, j'ai toujours passé beaucoup de temps à former, que ce soit mes équipes ou des étudiants. En parallèle de ça, depuis, on va dire, peut-être une quinzaine d'années, je suis jurée de BTS, BTS Commerce International. Donc là, c'est une étape qui arrive complètement à la fin, c'est-à-dire qu'à la fin de leur 2e année, ils passent devant leur juré et je jugeais une épreuve. Et là, je me rendais compte régulièrement de l'écart qu'il pouvait y avoir entre ce qu'ils avaient appris et le monde réel, ou des choses... Je prenais aussi, bien sûr, des étudiants BTS, Commerce International Stagiaire. Quand ils arrivaient chez moi, c'était « Ah, d'accord !» Tout d'un coup, le puzzle se mettait en place. C'était « Ah, on nous l'avait appris, mais je ne comprenais pas vraiment à quoi ça servait. Mais maintenant, je le vois en application, je comprends. » Et donc, je m'étais dit... Il y a quand même un gap, il manque de terrain. Ces gamins, là, ces étudiants, ils manquent de... Alors certes, ils ont des stages à faire en entreprise, etc. Mais malgré tout, ça ne remplace pas une immersion totale dans un vrai service. En l'occurrence, un service export qui était mon service. Et donc, je m'étais toujours dit, quand j'aurai du temps, alors je m'étais dit à la retraite, mais ça arrive avant, j'aimerais m'impliquer davantage au bénéfice des étudiants. Donc là, j'ai monté mon activité et la première chose que j'ai faite, ça a été de contacter des enseignants que je connaissais forcément depuis le temps en disant « Voilà, je souhaiterais m'impliquer auprès des étudiants. » C'était pour du bénévolat à la base, pour venir simplement leur parler en classe et leur montrer, leur expliquer déjà ce que c'était que le métier de commercial à l'export. Et puis, au final, on m'a proposé de me rémunérer, de me donner des cours. Alors, il se trouve que me lançant dans une nouvelle activité, j'aurais du temps. Honnêtement, en étant salarié, ça aurait été plus compliqué. Mais là, en étant freelance, c'est devenu tout d'un coup beaucoup plus facile et possible. Et donc, j'ai dit oui. Et je me suis lancée. Donc là, c'est un bachelor qui a dégainé en premier, tout simplement, qui est sur Montpellier. Donc, j'ai des premières années, des troisième années à qui je fais des cours de négociation commerciale, de business English, initiation logistique transport, commerce international, voilà. Donc aujourd'hui, la raison pour laquelle je m'implique, c'est clairement pour ça. C'est vraiment d'amener mon expérience terrain. J'ai 30 ans de terrain derrière moi et c'est de leur donner au travers de mes illustrations, dans mes cours, de joncher ça d'exemples pour qu'ils voient ce que c'est réellement, que, au plus possible, ils ne sont pas dedans, mais au moins d'essayer de leur donner le plus possible une vision concrète et applicative de ce qu'ils étudient.
Oui, donc finalement, tu y as toujours un peu pensé, plus ou moins inconsciemment, en tout cas que la formation, c'était important, et puis tu as saisi l'opportunité, ou d'ailleurs, l'école... D'ailleurs, c'est toi qui as contacté l'école, au final, ou est-ce qu'ils sont venus vers toi pour te proposer une offre? Comment ça se passe? Comment on devient formateur pour la première fois dans une grande école?
Alors, en fait, ils cherchent du monde. Il ne faut pas imaginer qu'il y a pénurie, non pas du tout. Enfin, qu'il y a pénurie, au contraire, qu'ils sont pas en demande, ils cherchent du monde. Ben, moi, comme je te disais, j'ai contacté des enseignantes avec qui je suis jurée depuis longtemps, donc... qui à force on se connaît, on a développé un tissu relationnel, en disant voilà, je suis dispo, si vous avez besoin de mes services, il y en a une qui a dégainé la première, et c'est pas étonnant parce qu'elle-même c'est une ancienne professionnelle reconvertie dans l'enseignement, il m'a dit oh, bien sûr ton profil il va être intéressant, etc. Elle a balancé mon CV à quelques écoles, et il y en a une qui a réagi en premier, qui s'appelle l'IPAC, bon, ça fait partie d'un gros groupe qui s'appelle la compagnie de formation, ils ont plusieurs écoles en France, hein. Et à l'intérieur, ils ont des BTS pour des bachelors, pour des masters, voilà, ils ont spécialisé. Et ils ont un établissement à Montpellier, puisque j'habite à côté de Montpellier.
Ouais, bon, je les connais bien parce qu'ils utilisaient Ducène, hein, donc coucou à eux aussi. C'est pour ça que tu utilises. Alors, on ne le savait pas avant d'enregistrer cet appel, mais donc c'est amusant quand même. Et alors, je pense que ça peut être bien de mettre un petit peu de transparence si c'est d'accord avec toi, parce qu'on dit qu'il y a pénurie de formateurs, et ce n'était pas la première à le dire. Combien ça paye dans une école de commerce aujourd'hui?
Alors, honnêtement, ça ne paye pas bien, réellement. Si on ramène le taux horaire qu'on vous paye à tout le temps passé à tout faire. C'est-à-dire que, alors ça dépend des niveaux, là où je suis, en gros, ça navigue entre 40 et 60 euros de l'heure, d'accord ? Ouais. Déjà, moi, ce que je trouve la première injustice, je leur ai remonté, je dis, c'est pas normal, c'est qu'on paye moins des cours pour des premières années que des troisième années. Ce qui, à mon sens, est aberrant pour deux plans. Un, pour le formateur, c'est exactement le même investissement, le même temps de préparation et même presque plus, parce que des premières années, je dirais, ils sortent du bac, c'est vraiment des gamins, ouais. Et ils ont besoin de... Ils n'ont aucune base commerciale de rien. Donc, ils sortent de philo, maths, histoire géo.
Ils ont besoin d'un peu plus de structure, peut-être.
Ils ont besoin d'autres choses. Tout d'un coup, ils passent à des matières qu'ils n'ont pas vues en classe, ou très, très peu. Donc, on a besoin vraiment de faire beaucoup de pédagogie. Et en plus, c'est d'autant plus injuste qu'ils ont besoin de fidéliser ces premières années pour qu'ils restent tout le cursus chez eux. Donc, entre guillemets, s'ils leur filent des profs pas payés en disant « Oh, vous savez, c'est que des premières années. » Non, ça marche pas. Pour moi, première, deuxième, troisième année, quatrième année, cinquième année, peu importe, l'investissement est le même. Et au contraire, plus on a des étudiants, on va dire, débutants, et plus il faut être encore plus pédagogue, etc. quoi. Donc, bref, ça, c'est la petite parenthèse. Il y a en gros 10 balles d'écart entre première année, troisième année. Mais surtout, ce que l'on regarde, c'est que... maintenant que j'ai 3 ans de recul, je sais exactement combien ça me coûte. Hein. Moi, j'ai des modules de 21 heures. Okay. Pour préparer un module de 21 heures, la première fois, c'est entre x2 et x3. Déjà, le temps. Donc, entre 40 et 60 heures, une cinquantaine d'heures en moyenne pour préparer le module, le créer. Alors après, les autres années, ça m'avait fait rire parce qu'on m'avait dit, tu verras, la troisième année, tu vas amortir. Ben là, j'ai fait un module d'une troisième année, mais j'ai rien amorti du tout. Parce que bien sûr que je ne reprends pas tout à la base, mais je mets à jour, je revois ma façon de faire, il y a de nouveaux exemples qui sortent. Enfin, on ne peut pas faire un cours à l'identique. On est dans un monde mouvant. En plus, on est sur des matières mouvantes. Je veux dire, peut-être que si j'enseignais le droit, et encore que j'y connais rien, il y a des jurisprudences qui arrivent, donc même ça, certainement, il y a des mises à jour à faire. On ne peut pas, quand on est dans le commerce, on ne peut pas dire, voilà, ça c'est mon exemple, et on ne va pas le toucher pendant 10 ans. Donc, il y a un retravail. Il y a un retravail, là, je l'ai évalué à peu près à la moitié de mon temps. Donc, pour 21 heures, j'ai fait 12 heures de mise à jour. Mais ça, c'est que... vous avez la préparation, puis tu as le temps où tu vas, tu as le trajet. Moi, j'habite à une heure de route. Allez, retour, 2 heures. Tu as la création des partiels, des examens, et puis tu as la correction. Donc, si tout ça, tu le mets bout à bout, qu'en plus, tu te payes là-dessus, tes charges, etc., allez, s'il te reste...
Ah oui, parce que c'est pas du net.
Mais oui, en net, s'il te reste 15 balles, c'est le roi du monde. C'est le bout du monde. Pour un cours où on t'a peut-être payé 55 ou 60 balles. Donc voilà, mon message, c'est que clairement, je ne fais pas ça pour de l'argent, c'est évident. Alors peut-être que si j'avais beaucoup de classes sur le même cours, tu vois, tu l'amortis. Mais honnêtement, ce n'est pas un métier que tu fais pour être riche. Moi, je sais que ma motivation, je me suis interrogée, hein, me dire, bon, qu'est-ce que je fais ? Je continue pas. Parce qu'à côté de ça, j'ai des clients privés qui me payent 10 fois plus. Mais si je fais ça, c'est parce que j'ai cet engagement vis-à-vis des étudiants que je ne veux pas lâcher. Donc, c'est très clairement pour de la transmission.
C'est pour la transmission. Et pourquoi tu apprécies ça ? Est-ce que c'est parce qu'à la fin, tu vois l'évolution des apprenants, tu dis « Ok, ils ont appris un truc ». Est-ce qu'ils te le rendent un peu ? Qu'est-ce qui fait que tu continues d'année en année ? Parce qu'on pourrait se dire « Bon, bah, je l'ai fait une fois, ok, et puis bon, je vais peut-être passer à autre chose. » Mais non, tu le fais quand même à nouveau.
Ouais, effectivement, tu sais, toutes ces étapes, tu penses, tu arrives en bout de course, tu fais bon, alors quoi, je continue. Bah, effectivement, tu as l'effet nouveauté, bon, ok, je l'ai fait une fois, je me suis prouvé que je pouvais y arriver, ouais. Mais non, il y a très clairement, la finalité, c'est quand même d'aider des jeunes à se mettre sur le marché du travail. En dehors des cours, ben, il y en a quand ils me sollicitent, je leur dis, ma porte est toujours ouverte, donc si vous avez envie de m'envoyer votre CV, vous galérez à trouver un stage, il y en a, j'ai 2 étudiantes l'an dernier que j'ai suivies toute l'année en off. Le week-end, on faisait des WhatsApp, on faisait des visios, je les ai préparés pour leur oral, voilà. Parce que ces gamines, elles ont envie, qu'elles m'ont sollicité, je ne veux pas dire non. Donc vraiment, la finalité, allez, j'ai des classes de 20, après, entre 15 et 20, mais s'il y en a 3 sur qui j'ai eu un réel impact, que j'ai motivé, qui se sont dit, ah, le monde du travail, ça peut être sympa, eh ben moi, pour moi, c'est bon, c'est acquis. Je ne prétends pas du tout sauver tout le monde, ce n'est pas la question. Mais si au moins, ils auront eu une vision d'un adulte qui leur donne envie et qui ne voient pas que le travail comme une contrainte, et ben pour moi, c'est gagné.
Et donc, de ton point de vue, qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux étudiants ? Qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvé au juré, c'est ça, hein, ouais, de BTS, et que tu t'es dit, mais attends, il y a un truc qui cloche là, visiblement. En tout cas, moi, c'est ce que j'entends quand tu en parles. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu fais pour changer ça ?
Alors... Moi, dans mon approche de cours, donc comme je te disais, ce qui leur manque, c'est la vision terrain, mais je ne crois plus du tout dans le cours magistral où « allez-y, notez !» D'ailleurs, ils ne notent plus. Oui. Alors moi, ça a été ma grande surprise. Première année, je débarque, première classe, en me disant « cahier stylo, classique ». Eh ben non, personne n'a rien, ils n'ont plus de cahier, ils n'ont plus de stylo. Depuis qu'on leur a fourni des ordinateurs, mais ça remonte déjà au lycée, hein, c'est pas des études supérieures, ils notent plus. Donc ça m'a surprise. Et en fin de compte, je me suis dit que c'est pas une bonne idée. Donc maintenant, j'exige de prendre des notes et je leur explique pourquoi, pas juste bêtement. Je leur dis voilà.
Tu leur demandes de fermer les PC ?
Ah, mais alors attends, alors je vais te dire. En 3 ans,
c'est allé graduellement.
Passe des trucs. Parce que j'ai appris, tu vois, première année, je suis arrivée, bonjour. Ouais. Alors tu leur dis pas, c'est ma première année, tu sais, t'as l'impression toi aussi, c'est ta rentrée scolaire. Et tu te dis, ben, ils savent, je vais me calquer sur eux. Mais en fait, non, rien du tout. Il faut imposer, il faut mettre un cadre. En fait, c'est tout. C'est encore une fois, ce n'est pas d'imposer des règles, c'est mettre un cadre. Et ils ont besoin d'avoir un cadre. Donc, première année, j'ai laissé faire. Deuxième année, j'ai dit, hop, ça ne me va pas. Troisième année, j'ai vachement plus cadré. Donc, qu'est-ce que j'ai fait cette année que j'ai appris des autres années ? Premièrement, alors, c'est des petites classes. Donc, j'ai la possibilité de le faire. Ce n'est pas des classes de 30 ou de 40. Je te dis, c'est entre 15 et 22, tu vois, grand max. Déjà, table en U. Ça, c'est la première chose que j'ai faite. On arrête les tables à l'ancienne les unes derrière les autres. Pourquoi ? Parce que déjà, personne ne se met devant. Donc, tu les as tous au fond. Tu vois, le syndrome du radiateur, là, tous au fond. Évidemment, plus ils sont au fond, et ben, plus ils planquent, et plus tu les vois, ils sortent leur téléphone, et tu as envie de leur dire, mais tu me prends pour une andouille ou quoi tu... Je vois bien que tu es sur un téléphone. Donc, déjà, en U, un, c'est pas possible de cacher un téléphone. De deux, c'est quand même vachement plus convivial. Ils se voient tous. Et moi, je me mets au milieu et je peux vachement mieux communiquer avec les uns et les autres. Deuxième truc, à l'ancienne, moi, c'est ce qu'on m'avait fait faire, mais au final, c'est pas con. Quand tu as des gamins je les ai 6 fois. Je les ai pas beaucoup, j'ai pas trop le temps de les connaître. Je leur ai demandé d'écrire leur nom, tu sais, sur le papier, que tu plies la feuille de papier, tu la mets devant toi. Au lieu de dire, hé, hey, toi, machin, c'est, hé, hey, tiens, Maëva, hein, Luc, hein, tu vois, tu sais à qui tu t'adresses. Ça, c'est le premier truc. Troisième truc, les téléphones dans les cartables ou dans les poches, même pas sur les tables. Et encore une fois, je leur dis pourquoi. Je leur dis parce que ce putain de machin qu'on a tous là, on est tous attirés vers ça. Donc, tu le vois, c'est tentant, tu as envie de l'attraper. Quand il est dans ton sac, eh ben, tu ne le vois plus. Et donc, j'ai remarqué, hop, une augmentation de l'attention, tu vois. Les ordis, pareil, fermés. Donc, maintenant, je leur dis, avant de commencer le cours, j'envoie un mail. S'il vous plaît, merci de venir, venir avec de quoi noter. Et je leur explique pourquoi. Je dis, parce que quand tu notes, tu es en écoute active. Tu écoutes ce que je dis. Déjà, tu fais une prédigestion. Tu notes ce qui te semble important. Et quand tu réviseras, tu n'as qu'à relire tes notes et ça va recontextualiser tout ça. Quand tu prends pas de notes et que tu écoutes en mode comme ça, c'est-à-dire la main sur la... Pour ceux qui voient pas la vidéo, la tête dans la main ou la tête qui s'avachit sur ta paume de main, tu n'es pas en mode actif, tu vois. Et j'ai eu, donc l'année dernière, j'ai commencé à faire ça et j'ai eu des retours d'étudiantes, plus des filles que des garçons, mais qui disaient « Madame, vous avez raison, hein, quand même, on retient mieux !» Et elles étaient là au stabilo, machin, et ouais. Non, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est à l'ère de l'IA qu'il faut tout jeter de ce qui s'est fait avant. Ouais. Et l'écoute active, prendre des notes quand quelqu'un parle, c'est très différent que d'écouter passivement, et tu retiens peut-être 5%. Alors peut-être qu'en autre actif, tu vas retenir 15%, mais c'est déjà 10 de plus.
Et donc, de ton point de vue, il n'y a pas de place pour la technologie dans la salle de classe ?
Si, bien sûr que si. Donc, alors, la façon dont je fais, donc ma méthode pédagogique, c'est de leur faire un max de choses, en fait. Donc, comme je te disais tout à l'heure, je ne crois plus du tout au cours magistral. Enfin, encore une fois, je ne suis pas une chercheuse. Peut-être que j'avais de la grande théorie à déployer, je le ferai. Et peut-être à certains niveaux d'études, ça se comprend, mais pas quand on a des premières, deuxième, troisième année. Donc, en fait, moi, je crois beaucoup à l'apprentissage par l'expérience. Donc, ce que je fais, le préambule, je te dis, ils ont fermé leur ordi, machin, je fais une introduction théorique, un quart d'heure, sur ce qu'on va voir. Après, je leur dis, maintenant, vous pouvez sortir vos ordis. Et là, ils travaillent en petits groupes. Alors là aussi, soit ils choisissent, au début, je les laisse choisir parce que je ne veux pas les brusquer, tout ça. Donc, ils vont par groupe de copains. Mais après, je leur dis, attention, ce ne sera pas tout le temps comme ça. Je peux choisir les gens. Alors, c'est, ah non, madame, ça râle. Je leur dis, si je le fais, ce n'est pas pour vous casser les pieds. C'est parce que dans le monde du travail, vous n'allez pas toujours travailler avec des gens que vous aimez. Donc, il faut aussi apprendre à collaborer avec des gens que vous aimez moins. Et en même temps, vous verrez que comme vous vous aimez moins, vous marchez plus sur des œufs. Et je trouve que la démarche collaborative, elle est souvent plus efficace. Parce qu'entre potes, c'est toujours les mêmes qui bossent. Et c'est les autres qui foutent rien en se reposant sur ceux qui bossent parce qu'ils savent qu'ils vont bosser. Alors que quand ils sont moins copains, c'est beaucoup plus équilibré. Et donc là, je leur donne une thématique très concrète. Et là, ils doivent chercher... alors, je leur laisse, je ne sais pas, ça dépend du sujet, peut-être une demi-heure, 40 minutes. Bon, moi, j'ai des modules de 3h30. Tu vois, c'est quand même assez long. Ils se mettent par petits groupes. Et j'y voilà. Donc, aussi, une chose que j'ai appris, c'est qu'au début, je leur faisais faire tous le même travail, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas bon à la restitution parce qu'au bout du deuxième groupe, ils s'enquiquinaient. Donc, je donne à tous une thématique différente de façon à ce qu'ils apprennent des autres aussi. Donc, ils préparent. Et ça ne se finit pas là. D'abord, ils doivent chercher, ils doivent creuser le sujet, etc. Et la dernière partie de l'exercice, c'est de la présentation devant la classe. Pourquoi ? Parce que là aussi, je les remets en contexte professionnel. Si vous êtes, si vous faites des études supérieures, c'est que vous n'allez pas finir manœuvre. En gros, hein, on est clair avec ça. Vous avez l'ambition d'être des futurs managers. En tant que futur manager, vous allez devoir faire des présentations. Qu'elles soient devant vos pairs, devant votre hiérarchie, devant des clients, devant des fournisseurs. Il faut que vous sachiez comment on fait. Donc, dans leur laps de temps, une fois qu'ils ont creusé, ils sont à chaque fois chargés de faire une belle présentation en ne retenant que l'essentiel. Parce que là aussi, hein, du 3 tonnes de texte qu'on lit, ce n'est pas une présentation. Voilà. Donc, le bon support qui va bien. Ils doivent tous parler à tour de rôle. Et quand ils ont fini, d'abord, je leur demande à eux de s'auto-évaluer. C'est là où c'est marrant, c'est qu'ils sont vachement sévères, en fait. Enfin, ils sont vachement lucides sur eux. Avant que les autres ne parlent, en disant « Alors, vous avez pensé quoi de leur prestation ?» sur la forme. Et sur leur fond, le fond, je leur dis, alors vous avez pensé quoi ? Et ils tapent juste. Ils sont honnêtes avec eux-mêmes. Hein. Bon, alors là, ça, j'ai pas réussi. Là. Alors elle était claire, moi, j'ai fait de la merde. Enfin, ils sont super lucides. Et après, c'est les autres, Sachant que le cadre, je leur dis, on fait tout cela pour être constructif. Je ne veux pas de critique pour le plaisir d'être critique. Donc, on est là pour faire avancer. Et du coup, c'est vachement bien pris. Et c'est très participatif des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui présentent, il y a ceux qui écoutent et ils doivent leur faire des retours. Et quand ils ont compris dans quelle dynamique je m'inscrivais, ben, les cours, ça passe assez facile. Et dans l'ensemble, j'ai un très bon retour. Donc, il y en a eu l'an dernier, au bout du deuxième cours, elle me dit « Madame, madame !» Non, elle rentre dans le deuxième cours, elle me dit « On va faire comme la dernière fois », c'est-à-dire ben, des ateliers, des présentations. J'ai dit « Ouais, c'est ce que j'ai prévu ». Elle m'a dit « Oh, ben cool alors !» Donc voilà, c'est que ça. C'est un format okay. Dynamique, voilà.
Et tu penses que tous les cours devraient être comme ça? Parce qu'on peut imaginer que pour un étudiant, c'est peut-être fatigant aussi de faire ça 8 heures par jour. Alors, peut-être pas tous les jours, mais souvent. Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait imposer, par exemple, le fait de ne pas avoir le PC en classe? Ou est-ce qu'il y a quand même des cadres où tu penses que c'est réservé et à chaque prof, libre de décider?
Bah, déjà, tu vois, dans ce que tu dis, 8 heures par jour, c'est lourd. 8 heures par jour d'enseignement, est-ce qu'il devrait y avoir 8 heures par jour? Bon, ça, c'est déjà la problématique de l'enseignement en France qui sont sur des cours très très longs. On a des plages horaires de cours super longues. À l'étranger, c'est rare qu'on ait ça. On est vraiment, je pense, une des exceptions. Alors, je ne veux pas me prononcer parce que je ne connais pas les autres matières, mais ce que je sais, c'est que moins tu es interactif et plus les gamins dorment. Il ne faut pas rêver. On dormait, nous, déjà à notre époque. On n'avait pas des portables, mais on dormait. Tu peux te mettre en mode veille. Alors certes, tu ne regardes pas un télé. Je le vois, ce que j'ai perdu. Je veux dire, je suis tout le temps, alors je suis hyper vigilante. C'est-à-dire que même quand je fais ma partie théorie, ce n'est pas moi qui parle pendant 15 minutes. Au lieu de dire, d'énoncer quelque chose, d'abord, je les interpelle. Je dis, alors voilà, là, on va parler de ça. Là, vous en pensez quoi? Et avant, je les réveille. Et après, je donne la réponse. Jamais je fais 15 minutes de monologue. Sinon, c'est mortel. Donc, qu'on regarde un téléphone ou pas, on se met, il décroche et c'est normal. Et on le fait tous. En réunion, mais combien de fois j'ai dormi dans les réunions ou des présentations.
C'est quoi tes astuces pour les réveiller? À un moment, tu sens que là, ils commencent à s'endormir, avoir un peu la tête en bas.
Ouais, c'est ça. En fait, il faut être hyper vigilant. C'est-à-dire que je suis dans l'attention constante, mais je pense que c'est aussi, ben, moi, c'est ce que j'avais développé dans ma pratique commerciale. C'est-à-dire que quand on est commercial, si on fait fi de la réaction du client, on est mort. Donc, en même temps, on est tout en train de surveiller la réaction. Si on en a plusieurs interlocuteurs, qui sait qui a l'air d'accord, donc on développe, moi, ce que j'appelle cette espèce d'hypervigilance, en fait, où on décode tout, langage corporel, celui qui commence un peu voilà, les paupières qui sont un peu lourdes, voilà. Donc là, instantanément, je me dis, putain, là, ça s'endort, c'est pas bon. Clac, faut que je trouve un truc. Ou je peux ne simplement arrêter de parler. Et là, forcément, ça interpelle. Il se passe un truc. Du coup, tout le monde se réveille. Voilà. Il faut être créatif. Mais il ne faut surtout pas laisser s'installer ni une torpeur généralisée, ni du verbiage. Il y en a, oui, aussi, c'est à matériel. Il y en a que je sépare. Mais ça marche. Il y en a, ils parlent. Et garçons ou filles. Alors là, je ne suis pas en train de dire les filles et pipelettes. Chez des gars, c'est pareil. On les repère. En fait, le premier cours, il faut vite repérer les meneurs. Il faut vite repérer les suiveurs, ceux qui ne vont pas faire de vagues, mais qui potentiellement en ont sous le coude. Parce qu'il y a aussi les introvertis qui sont super intéressants, mais qui n'osent pas prendre la parole. Il y a les extravertis qui parlent pour tout et n'importe quoi. Et il y a les fauteurs de troubles. Ils ne sont pas très nombreux, mais il faut tout de suite les repérer, quoi. Il faut tout de suite les recadrer. Si on ne veut pas que ça parte, voilà. Et les pipelettes, eh ben moi, ça m'est arrivé, la dernière module, j'en ai séparé. J'ai tout, allez hop. Et ils obéissent, en fait. Parce que des fois, on se dit, oh, ils ne vont jamais le faire. Mais bien sûr que si. On continue malgré tout à représenter l'autorité, quoi. Donc quand je dis, bon, maintenant, ça suffit. Je leur dis avant, je dis, attention, au début, ils me prennent, ils rigolent. Je vais vous séparer. Je vais vous séparer, maintenant, c'est bon, prends tes affaires. Je dis, merde, elle était sérieuse. Du coup, on voit un signal fort, prends ses affaires. Là, le calme se fait, et voilà. Donc, c'est de l'hypervigilance tout le temps, en fait.
OK. Et est-ce que cette hypervigilance, parce que tu disais que tu étais plus vigilante peut-être par ta pratique commercial de par ailleurs, mais ce qu'à l'inverse, le fait d'être prof, formatrice, ça t'a apporté des choses dans ton autre vie, je dirais, professionnelle?
Ouais, ça t'apprend encore plus de patience, j'ai envie de dire. Et alors, de trouver des biais. Alors, quand tu es en milieu purement pro, tu considères que tu es entre pro, entre pairs. Pas besoin d'être peut-être aussi... Alors, de la pédagogie, tu en as toujours besoin. Parce qu'il y a toujours des gens qui n'ont pas forcément le même niveau d'information que toi. Donc, tu as besoin d'être clair pour être entendu et qu'on qu'on valide ton propos. Maintenant, c'est pas la cour d'école, enfin quoique des fois, mais je veux dire, t'as pas besoin de faire régner le calme ou des choses comme ça. Donc, c'est plutôt, t'es vraiment avec les étudiants, t'es entre l'éducation parentale et la transmission de savoir professionnel. T'es encore là en fait. À ce niveau-là. Encore une fois, c'est des gamins qui sortent, qui ont 18 ans, 19 ans, ils sortent juste du lycée, ils ont connu un système scolaire hyper fin, cadré. Tu vois, par exemple, il y a un truc, je leur ai dit cette année, moi, j'adorerais qu'on se tutoie. Pourquoi ? Parce que je les mets déjà en position professionnelle. Pour moi, ce sont des futurs pros. Donc, je leur dis, je dis, voilà le cadre, pas de téléphone, pas de machin, la table en U, voilà ce que je te dis. Je dis, voilà. Et puis maintenant, moi, je suis là pour vous accompagner. On peut se tutoyer, je vais tous vous tutoyer, je vous le dis parce que ça sort comme ça, c'est spontané. Mais vous pouvez me tutoyer aussi, tu parles. Ils n'y arrivent pas.
Donc, finalement, c'est un peu une espèce de, c'est une espèce de schizophrénie en fait. C'est-à-dire qu'on se retrouve à être l'autorité, mais en même temps à vouloir l'enlever, finalement, cette autorité, je dirais, et être au même niveau. C'est ça que tu es en train de me dire.
En fait, tu voudrais qu'ils se considèrent eux-mêmes déjà comme de jeunes adultes, futurs professionnels. Ouais. Alors pour la plupart, ils sont encore à l'école. Tu vois. Alors évidemment, quand tu parles aux troisième année, c'est plus la même chose que les premières. Attention, ils ont déjà mûri, ce sont des alternants en plus. Donc voilà, là tu es déjà sur un autre niveau. Mais là, c'était les premières années quand j'ai.
Tu sens que l'alternance a un impact. Le fait d'aller dans un milieu professionnel, ça change vraiment. Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait faire même plus tôt en France, de ton point de vue?
Alors plus tôt, je suis pas sûre, dans le sens où il te faut quand même un socle de connaissances. Ben, prenons le BTS Commerce International, qui est le BTS que je connais le mieux, d'accord? Oui. Et qui vient d'accéder à l'alternance. C'est tout nouveau, d'accord ? Jusque-là, c'était ce qu'on appelle de l'initial, donc à l'école. Et puis, tu faisais un stage en première année, un stage en deuxième année, un stage à l'étranger, un stage en France, et voilà. Là, ils ont rentré l'alternance déjà dès les premières années. Ben, je sais que c'est compliqué, parce qu'on demande à des gamins tout de suite d'être en situation professionnelle dans du commerce international, où il y a quand même vachement de réglementation à connaître, etc. Ils ne l'ont pas vu. Et on leur dit, ah ouais, mais vous devez travailler comme... Première année, je ne suis pas sûre. Deuxième année, ça a certainement du sens, mais tout de suite là, de l'alternance. Et en plus, si tu veux, je me dis, ça dépend énormément de l'entreprise dans laquelle tu tombes. Ils ont, je ne vais pas me faire des bisous, mais ils ont la chance de tomber dans un service que je gérais avant, où j'ai toujours fait énormément de formations. Il y en a une ADV, que j'ai formée de A à Z, alors qu'elle n'était même pas dans le bon BTS.
Alors ADV, BTS, ça veut dire ?
Administration des ventes. Ce sont alors on va dire ce qu'on appelle à l'ancienne les secrétaires commerciales. Même si ça va au-delà, c'est le bras droit du commercial, mais en sédentaire. Tu vois, elle gère la relation client en sédentaire.
D'accord.
Cette fille-là, je l'ai entièrement formée alors qu'elle n'était même pas dans le bon BTS. Tu vois. Mais si tu rentres dans une petite société plus artisanale où il n'y a pas de service export peut-être, et on te demande déjà d'être en situation pro alors que tu ne l'as jamais vue et que surtout il n'y a personne autour de toi qui t'encadre, c'est là qu'est le problème. Et dans l'alternance, je le vois, ils sont tous alternants, tu as d'énormes disparités. C'est-à-dire que tu as les alternants qui ont la chance d'être dans des départements structurés avec des seniors, des gens qui vont les prendre en charge et vraiment leur apprendre le métier, ceux-là, ils s'éclatent. Ils s'éclatent, ils adorent, ça confirme leur choix, ils sortent de là, ils sont formés, souvent ils restent dans la boîte, mais s'ils partent, ils trouvent tout de suite, il n'y a pas de souci. Et de l'autre côté, tu as les alternants qui sont tout seuls, dans une mission où ils sont isolés, où ils n'ont personne pour leur apprendre leur métier, parce que déjà le patron ne le connaît pas, ce métier-là. On leur dit vaguement, bah tiens, ce sera lui qui, ou elle qui va te tutorer, alors qu'ils ne connaissent pas le métier. Cela, clairement, ça ne marche pas, parce que ben, ils n'apprennent pas, ils apprennent de personne, et on leur demande des missions d'un pro ou d'une pro, alors qu'eux-mêmes sont en formation. Donc c'est là où il y a, et je ne te parle même pas des alternances, où ils font carrément autre chose, enfin, c'est... Là, il y a un souci sur l'alternance, c'est une excellente formule. C'est pas la question, je remets pas du tout en question l'alternance. Par contre, je remets en question l'entreprise de la mission. C'est pas parce que tu arrives dans une école en disant bonjour, j'ai une alternance, c'est pas parce que tu as travaillé à McDo en alternance que tu as le droit de faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas en adéquation.
Tout à fait, ok, je comprends. Oui, c'est de toute façon, le choix de l'entreprise est aussi très important. Je pense que parfois, on le sous-estime un petit peu, même en tant qu'étudiant qui cherche une alternance, on cherche d'abord à trouver un contrat.
C'est ça.
Alors qu'on ne réalise peut-être pas que c'est très, très important de faire le bon choix de l'entreprise, c'est dans les deux sens.
Tu as le bon choix de l'entreprise. Est-ce qu'il y a un vrai service qui existe déjà, tu vois? Si tu es en communication, il faut travailler avec des gens qui font déjà de la com. Tu es en commerce international, il faut déjà travailler avec des gens qui font du commerce international. Ouvrir un service, en gros, c'est pas une solution. Enfin, c'est difficile pour eux. Alors,
c'est plus difficile, bien sûr.
C'est difficile. Tu as les démerdards, ok, ils vont malgré tout y arriver. Mais ils vont toujours, à chaque fois que j'en discute avec eux, ils restent sur une frustration et ils se disent « j'ai pas été encadré, je me suis pas régalé ». Et tu vois, tu as les alternants qui en sortent en disant « putain, génial, je me suis éclaté », ce c'est pas terrible. Et c'est là où tu en vois qu'ils bifurquent. Mais c'est pas parce qu'ils se sont trompés de choix, c'est parce qu'ils n'ont pas été encadrés.
Ouais, donc c'est peut-être une question de management finalement, plus, ouais, plus qu'autre
complètement,
chose.
Okay. Complètement.
Bien, Sylvain, je vois le temps qui file. Ce que je te propose, c'est de passer aux questions de la fin, si ça te va, avec la première, donc qui est la formation en 10 ans, pour toi, c'est quoi ?
Bah écoute, en droite ligne avec ce que je te disais de l'immersion, je me dis que par exemple, un outil comme la réalité virtuelle, ça peut, à mon avis, carrément aider. C'est-à-dire que tu peux mettre les étudiants en vraie situation d'immersion dans un environnement professionnel concret pour qu'ils voient réellement de quoi on parle. Parce qu'entre l'idée que tu te fais d'un métier et quand tu le vois réellement, parfois tu as du décalage. Alors la plupart du temps, j'espère, ça confirme, mais sinon, c'est « ah merde, je voyais pas ça comme ça ». Mais ils ont quand même passé 2 ou 3 ans à étudier pour un truc qui finalement leur convient pas. Donc je me dis que peut-être des expériences de réalité virtuelle, why not, ça pourrait être une option.
Est-ce qu'il y a d'autres technologies qui t'intéressent pour le futur ?
Bah, évidemment, tu as tout ce qui est IA, mais après, c'est le gros débat sur l'IA. Est-ce que l'IA, le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça t'apprenne à réfléchir. Il faut que ce soit toi qui réfléchisse et qui donne tes instructions. Mais bon, il y a tellement de discours contradictoires là-dessus que... Moi, je m'en sers, hein, à titre personnel, mais très peu. Juste pour, plutôt plus pour confirmer des intuitions que j'ai. Mais je ne fais pas mon travail aujourd'hui avec l'IA.
Peut-être à l'avenir, on le verra.
Demain, mais ouais, c'est
pas
ça.
Encore tout de suite. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a un média ou une personne que tu suis dans l'univers de la formation ?
Alors, dans l'univers de la formation, bah, écoute, l'année dernière, j'avais découvert au travers d'un post LinkedIn un monsieur qui s'appelle Nicolas Galita, qui fait de la formation pour des RH, pour du recrutement, l'école du recrutement, je crois que c'est comme ça, si je ne dis pas de bêtises, et qui fait une super newsletter qui s'appelle l'Atelier Galita, à laquelle je suis abonnée. Et justement, tu vois, avant de réattaquer cette troisième année, j'ai ressorti tous les numéros de l'Atelier Galita sur tout ce qu'il préconisait pour de la formation, notamment les tables en U, tu vois, ça sort de chez lui, etc. Donc lui, c'est quelqu'un qui remet sans cesse en question ses pratiques, qui voilà. Donc lui, il est assez inspirant dans ce domaine-là. Ouais. Encore une fois, parce que c'est de l'application concrète. Alors lui, c'est pour des pros, moi non, mais je considère que la finalité est la même, c'est pour des futurs pros, tu vois.
Ok, super. Est-ce qu'il y a un outil digital que tu recommandes ? Alors, je comprends que tu en utilises peu dans la classe, mais est-ce qu'il y en a quand même que tu utilises ? Ou d'ailleurs, en dehors de la classe ?
Ah oui, dans la classe, je leur fais faire des prises. Alors après, souvent, ils vont sur Canva, mais après, ça, c'est eux qui voient. Mais sinon, après, oui, Canva pour tout ce qui est présentation. Alors moi, qui suis issue du commerce international, j'avoue que DeepL m'a carrément bluffé. Bon, j'ai fait des
traductions.
Ah ouais, j'ai fait des traductions toute ma vie, si tu veux. Donc là, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec Google Trad, Lingué, enfin, etc. Tout ce qu'il y avait avant, c'est vraiment très très bien foutu. Donc même moi, je gagne vachement de temps. C'est-à-dire, je prends des textes, je les fais traduire et après je relis et je corrige quelques formules si ça me convient. Mais honnêtement, pour aller à 80% du job, ça suffit largement. Donc DeepL, ça marche avec l'IA, c'est vraiment bluffant. Bon, après, j'ai une notion pour de l'organisation personnelle. Voilà, puis après, mon outil digital, il est là, quoi, c'est mon téléphone.
C'est le téléphone, ok, ça marche. Est-ce qu'il y a un livre que tu aurais envie de partager ?
Alors, ouais, j'ai un livre. Alors, on est plus dans le copywriting, tout ce qui est force d'écriture de vente. C'est un bouquin qu'a écrit Nina Ramen. J'ai fait une formation avec Nina Ramen, qui est une personne qui forme à l'écriture de vente, en fait. Et l'écriture de vente, ça va sur tout. C'est-à-dire qu'une écriture de vente, c'est à la fois pour écrire un post, que pour faire un email, que pour faire une accroche. Moi, j'ai ma propre newsletter, donc savoir accrocher les lecteurs. Donc ça m'a vachement fait progresser, ça m'a bien fait grandir. Et donc, elle a commis un livre qui doit être pas très loin. Bah tiens, il est là. Attends. Il est juste derrière. Voilà, Nina, si tu me vois.
Copywriting pour les entrepreneurs.
Entrepreneurs et indépendants, voilà. Et il y a plein de sections en fonction de ce qu'on veut écrire, si on veut faire une newsletter, si on veut faire un emailing, si on veut faire un post LinkedIn, si on veut, voilà. Donc ça, c'est en com écrite, est-ce qu'on a encore besoin de com écrite ? C'est un peu une bible.
Ok, voilà. Super. Alors j'en profite parce qu'on ne parle pas souvent de copywriting quand même dans ce podcast.
Ouais.
Moi, mon livre préféré, ça va être The Boren's Letters, qui sont très intéressants, donc par un Américain qui s'est retrouvé à écrire des lettres de vente notamment et qui sont très très intéressantes. Mais le copywriting, qui je pense est un atout à pas négliger, pas que pour la vente d'ailleurs, même en marketing de manière générale, quand
exactement.
On écrit des sites web, etc., ou même des emails, c'est
exactement.
fort pratique. Donc,
absolument. Moi, je regrette de ne pas m'y être mis avant parce que j'ai écrit des mails commerciaux toute ma vie et si j'avais une meilleure technique, je faisais de la littérature en gros, on va pas se mentir. Hein. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est de l'écriture actionnable, de l'écriture de vente qui impacte. Voilà, on n'est pas là pour faire du Victor Hugo.
Dis-moi, où est-ce qu'on peut te trouver digitalement plutôt ?
Digitalement, on va me trouver sur LinkedIn essentiellement. Hein. Bon, après, j'ai ma newsletter. Alors, j'ai une newsletter sous Substack qui s'appelle « Exporter, même pas peur ». Voilà, c'est pour vulgariser l'exportation auprès des PME et puis des étudiants, évidemment, hein, pour leur donner déjà des pistes d'immersion si jamais ils veulent faire ça dans leur vie. Et sinon, sur LinkedIn, sous mon nom, Sylvaine Poncet, P-O-N-C-E-T, où je publie régulièrement sur tout un tas de sujets, mais liés à la formation et puis liés, bien sûr, à l'international de façon générale. Voilà.
Génial. Bah, merci beaucoup et merci d'être passé dans ce podcast. Sylvaine, je te laisse le dernier mot pour clôturer cet épisode.
Bah, écoute, j'étais ravie. Je suis une très grosse consommatrice de podcasts. Et alors là, tu es mon premier podcast. Et je t'en remercie.
D'accord. Génial. Bah, super.
Je sais pas, c'est quelque part dans ma tête parce que j'aime bien un autre projet. Je dis un jour, je ferai un podcast sur l'international. Je ne sais pas, après la newsletter. Donc, je suis ravie d'avoir été invitée par toi. Voilà.
Et bah, non, mais le retour est partagé. Et franchement, lance-toi. Il n'y a jamais de podcast. Qui sont en trop, et sache que 95% des podcasts ne dépassent pas 3 épisodes, donc le plus dur, c'est de commencer, c'est pas d'aller au bout, finalement. Donc lance-toi. Écoute, sur ces belles paroles, merci beaucoup, encore une fois, et je te souhaite très belle formation, et à la prochaine.
À la prochaine, merci.
Merci d'avoir écouté Formation Innovation. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode. Si c'est le cas, le meilleur moyen de soutenir le podcast est de laisser une note sur Apple Podcast. Afin de retrouver les sujets évoqués pendant cet échange et de ne rater aucun épisode, rendez-vous sur formation-innovation.com. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et bonne formation.